Espace 2.
Bonjour à tous, Charles Sigel au micro, très heureux de vous retrouver. Nous allons entendre l'une des conversations Discovery de Verbier, l'une de ces rencontres que j'ai eues durant tout le festival avec des personnalités qui étaient là, des musiciens par exemple. Ce jour-là, c'était la semaine dernière, c'était avec Richard Rentsch, qui était à la fois musicien, compositeur, improvisateur, on va beaucoup parler d'improvisation, et qui travaille avec deux chercheurs dont il va nous parler dans les domaines des neurosciences et de la psychanalyse. Voici cette rencontre illustrée de quelques plages musicales que nous lui devrons. Bienvenue, bien entendu, très heureux de vous accueillir pour ces conversations Discovery. Quand elles sont en français, je suis très heureux de m'en occuper. Vous savez qu'elles sont proposées à la fois par le festival et par Espace 2 et qu'elles sont diffusées sur la chaîne Espace 2, telle que nous allons la dérouler devant vous, sans trop de montage, de la façon la plus fluide. Et je suis très heureux d'accueillir Richard Rentsch. Je dis deux mots de présentation à votre propos. Richard, vous
êtes...
Bonjour
à tous aussi. C'est aussi une occasion de tester. Bonjour à tous. Voilà, bienvenue.
Pianiste, compositeur, auteur de musique de ballet notamment, oui, auteur d'un Requiem qui a été créé par l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
voilà,
si je ne me trompe pas.
Oui.
Mais on va parler de vous, Richard, en tant qu'improvisateur, mais on va parler de vous aussi au sujet d'une expérience à laquelle vous participez, dont vous êtes en somme le cobaye.
Voilà, exactement.
Consentant.
Voilà, consentant, oui.
Autour de... Alors, c'est à mi-chemin de la psychanalyse et des neurosciences. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais c'est tout à fait passionnant. Il s'agit d'essayer de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau quand il est en situation de création, c'est ça ?
C'est exactement ça, en fait. Les neurosciences, c'est un mariage, en fait, dans le fond, entre neurosciences et psychanalyse, essayent, dans le fond, de comprendre, de capter l'activité neuronale pendant une phase de création. Mais bon... On parle de musique, mais ça peut être dans un autre domaine. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de nous tous, dans le fond, lorsqu'on doit inventer, créer ou composer?
Ça marche pour le langage, ça pourrait marcher pour la peinture. Qu'est-ce qui se passait dans le cerveau de Michel-Ange quand il peignait le Jugement dernier,
exactement,
par exemple?
C'est tout à fait ça. Et là, je pense que le challenge est vraiment expliquer Michel-Ange. Vous le citez, ça me... Je pense que c'est difficile. Même bon, les grands compositeurs, Mozart, on peut détailler la musique. Un très bon élève de conservatoire peut décortiquer une partition de Mozart jusqu'à la dernière note, mais expliquer dans sa musique pourquoi tout à coup un arpège qui est d'une simplicité évidente devient tout à coup comme l'impression que Dieu nous parle directement dans les oreilles, alors que c'est un arpège. Ça, c'est un mystère complet. Mais je ne crois pas que je pense pas qu'ils en sont. Ils sont dans une démarche de percer ce mystère. C'est vraiment une recherche. Et là, ils trouveront certainement d'autres choses dans le fond. Oui, oui. C'est un chemin. Oui.
Quand c'est Mozart ou quand c'est Schubert, on parle de génie parce que justement, c'est complètement inexplicable. Or, les scientifiques avec lesquels vous travaillez, Richard Rentsch, essayent de trouver ce qu'est le génie, en somme, ce qu'est le travail du cerveau. Alors, le travail peut être d'excellente qualité quand c'est un Mozart ou un Schubert, ou peut être banal quand c'est moi, par exemple. Mm-hmm. Mais le principe de fonctionnement reste le même.
Oui, c'est exactement ça. Il y a vraiment un seuil, un passage de porte où on est dans l'inexplicable, dans le mystère. On peut, par l'analyse, décortiquer, c'est tout à fait juste, mais ensuite, on est vraiment devant quelque chose de totalement mystérieux. Je reviens à cet exemple d'arpège. Ça, pour moi, c'est fascinant. Si vous êtes dans un aéroport, vous êtes à l'aéroport de Genève, je prends cet exemple parce qu'on est ici, vous entendez l'arpège qui vous a cette mélodie dans les aéroports qui vous demande de rejoindre le terminal, etc. Voilà. Puis vous entendez cet arpège et c'est quelque chose de très fonctionnel. Dans le fond, c'est pour annoncer quelque chose. Mais le même arpège dans le concerto de Mozart, c'est ça. C'est tout à coup, ça vous transporte dans quelque chose qui est qui vous fait partir vraiment.
Qui vous fait décoller.
Ouais, c'est vraiment ça.
Mais c'est pas l'avion.
Pour reprendre l'exemple, ça c'est un mystère complet.
Alors, ces recherches, vous les faites avec des personnalités particulièrement éminentes, Richard?
Voilà, ben les deux professeurs, bon, dans les neurosciences, c'est le professeur Magistretti, donc, qui est le directeur du Brain Mind Institute à l'EPFL, entre autres, qui travaille avec le professeur Kendall, qui sont vraiment des pointus dans les neurosciences,
et puis le professeur Anselme. L'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, je le dis pour tout le monde, n'est pas forcément vaudoir.
On resterait l'aéroport de Genève, l'EPFL, on resterait dans... Voilà. Et puis le professeur Magistretti, Sermet, qui... donc psychanalyste et qui est responsable de toute la psychiatrie des HUG à Genève. Voilà. Eux ont créé, dans le fond, un mariage, un pont entre neurosciences et psychanalyse. Ça, c'était assez révolutionnaire, parce que les scientifiques regardent les psychanalystes un peu comme des gens bizarres, et réciproquement. Là, ils ont réussi, eux, dans le fond, un mariage. Ils ont additionné à ce mariage les arts, la musique, et je suis, moi, responsable, disons, des projets musique dans le cadre d'une fondation.
Une fondation qui s'appelle Agalma.
Agalma, oui.
Ces deux scientifiques, chacun dans leur domaine, François Ansermet, donc psychanalyste et psychiatre, spécialiste de la psychiatrie enfantine, je crois, notamment.
Tout à fait.
Et
oui.
Pierre Magistretti, donc
biologiste, neurobiologie.
C'est ça. On se sont rapprochés il y a une dizaine d'années au moins, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps qu'ils cherchent à s'entendre, en tout cas.
Tout à fait. Ils ont fait énormément de publications. Donc, un des premiers livres, à chacun son cerveau. Il y a plusieurs vraiment livres tout à fait maintenant pertinents sur justement ce qu'ils appellent eux des points de butée, des questions liées à la neurobiologie et à la psychanalyse. Et chacun de ces domaines a des questions dans le fond où il y a un mystère complet. Ils essayent dans le fond de regarder l'autre, de questionner l'autre et de répondre à ces questions, comme l'inconscient, par exemple.
Dernier livre a pour titre « Les énigmes du plaisir ». Tous leurs livres sont parus chez Odile Jacob, précisons-le.
Voilà.
La psychanalyse fait dans l'impalpable, en somme, dans le discours, dans les mots, dans l'écoute, parfois l'écoute muette de la part du psychanalyste. Il s'agit de faire parler quelqu'un, de l'inviter à parler en espérant que ce discours pourra le libérer de tout ce qui peut le bloquer.
C'est ça.
Tandis que les neuroscientifiques, eux, ne regardent que... Les courbes que tracent les stylets sur le papier.
Ils observent, c'est par IRM, c'est des observations. Enfin, je veux être clair, je suis pas neurobiologiste, je veux pas parler de.
Mais vous assistez, vous participez, vous êtes le cobaye pour de ces expériences.
Exactement, tout à fait. Ouais.
Décrivons les choses matériellement, Richard Rentsch. Comment ça se passe avec des électrodes?
Voilà, donc on deux pianistes, deux pianos. On a chacun une série de capteurs dans le cerveau. Et derrière nous, deux écrans qui représentent nos deux cerveaux. Et on part dans une improvisation, c'est-à-dire qu'on part dans quelque chose qu'on demande cinq notes au public, mais des fois on demande rien, je commence par une note. On part vraiment dans une... C'est presque un peu vertigineux, parce qu'on ne sait pas du tout où on va aller. Je fais une note, il en fait deux, et ça, c'est une sorte de dialogue comme ça. Et le public voit en temps réel, dans le fond, l'activité, ce qui se passe dans nos cerveaux pendant cette phase de création. Alors évidemment, on est au début, et c'est assez, je pense, rudimentaire pour l'instant ce qu'on y voit, parce qu'il y a des tas de parasites. Le cœur intervient, si vous bougez les sourcils, si vous faites un rictus, tout ça intervient et ça se voit. Mais ce qu'on va essayer, tout ce qu'ils vont tenter de faire, c'est de d'élaguer dans le fond tous ces signaux pour arriver vraiment précisément à essayer de comprendre, par exemple, les effets de synchronie. Hein, en musique, mais ça peut être dans un dialogue aussi, tout à coup, quand vous avez déjà ressenti ça, quand vous êtes parfaitement en adéquation avec l'autre, quand ça colle parfaitement, ben c'est ce qu'on ressent aussi en musique.
Quand tu es hors travail, le moment où tout le monde joue vraiment.
C'est ça,
tous
les musiciens vous le diront, ce moment qui est vraiment extraordinaire, qu'on recherche tout, ce qui est là aussi mystérieux, complètement mystérieux. Il y a tout à coup une écoute absolument parfaite et un dialogue parfait. On quitte même la musique, on n'entend plus vraiment des notes, on est dans une énergie commune. Et ça, est-ce que ça, c'est visible?
Est-ce que ça fait des courbes parallèles?
Voilà, est-ce qu'il y a des moments de synchronie, ou au contraire de l'absence complète il y a des recherches, je vois, quand on improvise, des fois on se cherche, mais c'est exactement comme la rencontre entre deux êtres. Hein, des fois, vous dites une phrase, l'autre vous dit ça, mais pourquoi il me dit ça? Jusqu'à ce qu'on trouve, on avance comme ça et on trouve un vocabulaire commun. Et on, voilà, c'est, voilà ce qui se passe dans, ce, dans, dans ces improvisations. Alors, nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on, Horatio, c'est, bon, il est musicien, donc voilà, nous, on fait de la musique. Mais eux sont là pour...
Mais j'imagine que vous écoutez les commentaires, les explications, et qu'on vous dit ce qu'on vous fait subir, peut-être, non, quand même ? Ou vous êtes voilà, vraiment pour... traité comme des machines jouantes ?
C'est un petit peu ça, dans le fond. Les scientifiques, ils aiment bien ça, ils aiment bien observer. Oui, oui. Un peu le laboratoire, mais je répète, pour l'instant, je pense qu'ils sont, voilà, c'est pour souris musicales, on pourrait le dire comme ça. On est au début de ces recherches.
Je vous racontais, il y a quelques temps, il y a 2-3 mois, j'ai rencontré Mathieu Ricard, qu'on connaît, le moine bouddhiste, par ailleurs, bras droit, enfin, interprète du Dalai Lama, qui, lui, est habitué à faire de la méditation. Il se définit avec quelques-uns de ses amis comme un athlète de la méditation. Et il collabore à une expérience dans une université américaine un peu semblable, c'est-à-dire que c'est plus des électrodes, c'est carrément des IRM et des choses comme ça. On demande à des méditants, c'est le nom, de bien vouloir méditer, entrer en méditation, mais d'une façon très approfondie, d'entrer en eux-mêmes, dans un IRM, ce qui est quand même pas un endroit tellement confortable, parce qu'en plus je crois que ça fait un bruit du diable, pour observer si cet exercice de méditation modifie quelque chose dans le cerveau. Si c'est observable, si l'image qu'on peut avoir sur un écran rend compte de cette mise en condition qu'est la méditation, fait par quelqu'un qui a exercé déjà ce muscle, en somme, ce muscle intérieur. C'est un peu la même démarche.
Je pense qu'il y a un parallèle à faire entre c'est une forme de méditation, dans le fond, l'improvisation. On peut imaginer que c'est une, dans le fond, une connexion, hein. C'est, bon, il y a quelque chose d'assez vertigineux. Je le répète, on commence, on sait pas du tout ce qu'on va faire, hein. C'est pas la partition avec un cadre, ni même une improvisation du type jazz ou du type où il y a un cadre harmonique. Bon, il y a rien, donc. Donc on se connecte à la sonorité. C'est dans le fond, on réinterroge tout ce qu'on croit savoir dans ce fond de la musique, de l'harmonie. On réinterroge la note do sol. Est-ce qu'on la réécoute autrement? On se met dans un état de redécouverte, de reconnexion. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Enfin, pour moi, c'est une ouais, c'est vraiment, il y a quelque chose de mise en abîme. Enfin, il y a quelque chose où on doit redéconstruire tout.
Vous vouliez, Richard Rentz, nous faire entendre un exemple musical qui est, si j'ai bien compris, votre rencontre avec Horatio.
Voilà. Oui, alors là, puisqu'on parle de mystère.
Horatio Sciortino, qui est un concertiste, hein, qui aurait été là avec plaisir avec nous, mais je crois qu'il est en train de donner des concerts de par le monde.
C'est tout à fait juste. Alors là, on parle de mystère, mais en voilà un. Donc, dans le cadre d'un festival que j'organisais, là, enfin, je ne veux pas parler de, puisque je suis à Verbier, il ne faut pas parler de.
Aussi, parler de cran.
Cran, voilà, c'était des semaines musicales, peu importe. Puis je voulais remettre l'improvisation dans le monde musical, et puis je n'avais pas une enveloppe financière suffisante. Donc là, un des musiciens de l'Académie de piano d'Imola, je sais ça, avec Michel D'Alberto, donc je me suis dit, mais dans le fond, pourquoi on n'essayerait pas? Et voilà qu'on se retrouve sur scène, l'un en face de l'autre. Lui est sicilien. Moi, je suis suisse allemand. Je le connais pas. Je sais pas qui c'est. Il parle un peu français, bon, pas très bien italien. C'est dommage d'ailleurs. Et donc, on se retrouve l'un en face de l'autre. On se regarde et puis on commence, on part avec donc cette idée de se rencontrer sans
grille d'accord, sans thème, sans rien.
Aucun thème, sans aucune chose. Donc, il fallait bien finir. À un moment donné, on s'est juste dit, bon ben. On fait une sorte de sonnerie musicale, et puis ça va s'arrêter là, un crescendo, paf, ok, bonne chance. Et ça a commencé comme ça.
Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est comme plonger de 10 mètres.
Oui, c'est vraiment se retrouver en haut d'un plongeoir, et puis vous avez déjà fait peut-être cette expérience de se laisser tomber comme ça, un peu dans le vide. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Hein. Alors, sauf que là,
comment ça se passe? Donc, il y a l'histoire de l'accord. Vous êtes face à face, l'accord des esprits. Mais il y a aussi l'échange, le passage. Comment se fait la communication dans un moment comme ça qu'on va entendre?
Alors, je reviens là. C'est ce qui était assez étonnant, c'est qu'à un moment donné, on n'entend plus qu'un piano. C'est vraiment une rencontre. qui, alors là, dans ce cas-là, était une synchronie pratiquement pas tout le temps, mais en début, mais c'est très rapide. Alors ça, c'est vraiment
le genre d'échange qu'on essaye de reproduire après.
Voilà, exactement. Et ça marche pas.
C'est comme l'amour,
ça marche pas.
On l'écoute. Thank you. va faire un chant comme ça. C'est très... On nous dirait, à nous autres qui sommes de bonne foi, c'est une œuvre qui a été composée par tel ou tel compositeur, on le croirait volontiers. Alors que vous, ouais, vous voyez pour la première fois, donc, ouais, avec, ouais, Orazio,
voilà, exactement.
Richard Rennes,
exactement.
C'est, oui, vous improvisez. Et, alors il y a une première section motoriste, une autre un peu cristalline. Là, j'étais en train de vous chuchoter quand il y avait un moment qui faisait un peu bluesy, un peu piano, mm-hmm, bar, ouais, de qualité. Mm-hmm. Je suis bien d'accord avec ça. Mais sans s'être mis d'accord, il y a une pièce qui a sa cohérence.
Oui, ouais, tout à fait. Donc,
ça
devient une composition, effectivement. Ouais. Voilà, c'est ça. Dans le fond, une improvisation. Oui, dans le processus de composition, je pense que l'improvisation est. Est importante. C'est, dans le fond, c'est une composition, c'est une improvisation travaillée. Hein, il faudrait, à partir de ça, maintenant, lui donner une structure.
Hein. Mozart, Beethoven étaient de grands improvisateurs.
Oui, je crois qu'il faut le rappeler. Quoi. C'est pas Louis Armstrong qui a inventé l'improvisation. Je crois que je vais me faire des amis avec les jazzmen que j'adore, d'ailleurs. Mais non, sincèrement, il faut rappeler que un musicien improvise. Hein. Bach a fait que ça. Donc Chopin, Liszt, tous.
Et le principe même du thème et variation, c'est en somme une improvisation, voilà, écrite, une recherche. Exactement. Alors là, il y a quelque chose de cérébral qui s'insinue là, qui met les choses en forme, mais c'est quand même la même idée de tourner autour d'une idée musicale pour l'exprimer totalement, comme dans le jazz, le bebop, par exemple, Coltrane, on prend un thème et j'allais dire on l'essore, mais c'est un peu ça.
Voilà, c'est ça, il y a une base, puis on essaye dans le fond, c'est comme des cercles. Hein. Le thème serait le centre, et ensuite, vous créez des cercles. Et plus vous jouez avec, par exemple, vous citez le bebop, plus on sort du cœur de l'harmonie, c'est-à-dire qu'on joue avec ce qu'on appelle des hauts degrés, plus on s'éloigne du cœur de l'harmonie, plus on rend cette musique éthérée, complètement... puis on s'éloigne du cœur de c'est ça dans le fond, c'est un jeu permanent, les jazzmen font un jeu des allers-retours entre cette grille, ce thème et puis ce qu'il désire interpréter, c'est un jeu, hein, mais sur quelque chose qui est établi. Sauf évidemment les cas de free jazz, évidemment.
Oui, le free jazz, par définition. Quelle est la différence entre le free jazz que faisait un pianiste comme Cécile Taylor,
Taylor,
30 ans, et ce qu'on a entendu là?
Alors,
c'est à deux et que lui était tout seul.
Précisément, voilà, c'est l'absence donc de ce qu'on appelle tous les standards de jazz. Dans le fond, c'est des chansons américaines, hein, faut le rappeler aussi. Et donc, comme toute chanson, elle a une mélodie, elle a une forme harmonique, et c'est ce que les jazzmen utilisent ça, ce bagage-là, pour ensuite, pour s'en détacher complètement. En prenant des extensions de l'harmonie, hein, je vais pas entrer dans les thèmes, mais c'est haut degré pour les rendre soit plus complexes, plus on s'éloigne de la fondamentale tierce
quinte,
plus on s'éloigne de ces degrés primales, je préfère, plus on rend la musique complexe, et voilà. Donc après, c'est au musicien d'utiliser, exactement comme un cuisinier va utiliser ce matériau-là pour exprimer.
Alors, vous improvisez régulièrement avec Orazio Scortino,
voilà,
depuis combien de temps?
Première
expérience.
C'est depuis cette expérience-là, puis ensuite on a joué dans différents. Soit dans des festivals, disons que scientifiques, type FENS, Fédération Européenne des Neurosciences, trucs scientifiques, soit festival de musique. Ça peut être Montreux, on a fait plusieurs autres choses. Donc c'est.
Mais après, l'exemple devient moins pur. Enfin, le travail devient moins pur. Ce qu'on a entendu là, c'est la première fois.
Ouais,
heureusement, il y avait des micros pour le capter. Après, j'imagine. Voilà. Prend des habitudes.
Bien sûr, et puis il y a toutes nos références musicales, c'est-à-dire que moi on va pas faire des quarts de ton, ce serait difficile, mais on va forcément à un moment donné, on fait appel là aussi à d'où on vient,
son background, à sa culture, à ses connaissances.
Exactement.
Oui. Et on fait des citations, j'imagine,
voilà.
Alors.
Et puis donc, peut-être ce qui serait intéressant de dire aussi, c'est pourquoi dans le fond, pourquoi par exemple psychanalyse, improvisation, etc.
Comment s'est fait la rencontre?
Voilà,
Est-ce vous qui êtes allé vous proposer à ces deux professeurs ou était-il en recherche?
Non, alors justement, à Cran, le professeur Sermé assiste à cette improvisation, puis vu qu'il fait ses recherches, donc discussion, et ensuite on commence à établir
psychanalyse.
Voilà, exactement.
Deux,
hein. Et ce qui est intéressant, le parallèle, vous me direz, mais pourquoi, qu'est-ce que la musique vient faire là et pourquoi deux pianos, etc. Ben justement, l'improvisation, si on fait le parallèle avec la psychanalyse, le professeur Sermé dit, par exemple, lors de cas de difficulté, lorsqu'on est dans une phase de, lorsque l'humain est dans une phase d'impasse, on va appeler ça de dépression, il dit qu'il y a chez le sujet, chez le patient, une absence de représentation, c'est-à-dire que la personne n'est plus capable dans sa vie d'avoir suffisamment de représentation et se retrouve dans le fond prisonnier, dans une impasse et bloqué finalement. Et tout le travail de la psychanalyse va être de permettre à ce sujet, à ce patient, de recréer toute une série de représentations pour, dans le fond, offrir des issues et une voie de sortie de cette impasse. Et bien voilà exactement l'enjeu de l'improvisation. C'est par la composition, l'improvisation-composition, je les mets ensemble, par la créativité, c'est par ces démarches-là qu'on va recréer, dans le fond, des nouvelles représentations et, dans le fond, un nouveau sens.
Ce que vous disiez tout à l'heure, on redécouvre...
Une liberté, dans le fond, une libération, une liberté.
On redécouvre le dos, on entend vraiment un dos ou un sol, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
C'est une manière de re-rencontrer, de réentendre à nouveau la musique, de réentendre sol qu'on nous a toujours présenté comme... C'est une fréquence, bon d'accord, dos, sol, mais il faut la rencontrer à nouveau. C'est peut-être comme l'être avec qui on vit tous les jours depuis je ne sais pas combien d'années, il faut peut-être... Se donner la possibilité de le revoir autrement, dit peut-être, on pourrait appliquer ça au couple, dans le fond aussi, de comment on pourrait recréer des nouvelles représentations, des nouveaux souffles, en fait. Nouvelles. Voilà.
Par ailleurs, vous êtes compositeur. Un compositeur normal, si j'ose dire, ouais. C'est-à-dire avec un crayon et du papier, voilà. Ou un ordinateur, je ne sais pas. Mais la démarche est-elle la même ou ça, justement, le fait d'improviser a changé la démarche de compositeur?
Tout est un peu lié, simplement. Dans une composition, ensuite, il y a un destinataire. C'est-à-dire, si vous faites mal dans le cadre d'une messe de Requiem, c'est un texte latin, il faut qu'il y ait un sens. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? C'est peut-être prétentieux, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire partager? Plutôt, je préfère. Voilà. Donc, à partir du moment où on a tenté de donner une réponse, notre composition doit être cohérente avec ce qu'on...
Alors que dans l'improvisation, non?
Dans l'improvisation, moi, je peux me permettre de...
Il n'y a pas l'idée de partage non. Ou de
bah oui, ça aussi,
musique offerte
mais,
à quelqu'un.
Oui, ça aussi, mais j'ai donc plus de, j'ai pas cette disons, il n'y a pas la structure hein, qui viendrait ici me.
Mais la structure se crée d'elle-même. Dans les quelques minutes qu'on a entendues il y a quelques instants, on perçoit une structure qui s'est faite.
Oui, on peut parler de
faite toute seule. C'est un peu bizarre.
Comme dans une discussion, probablement, je répète, on va commencer. Bonjour. On commence par des choses que tout le monde connaît, et ensuite on peut entrer très vite dans des choses plus profondes ou rire ou je sais pas. C'est exactement la même chose. C'est vraiment un dialogue. Mais ça, c'est soit Horatio initie ça ou moi. Alors il peut peut-être tout à coup devenir ironique, alors soit je le suis là-dedans ou pas du tout, j'ai pas du tout envie d'aller. Donc c'est tout un jeu ensuite.
Alors comment se fait le contact pendant la musique? Mmh. Étant entendu que vous ne vous êtes pas mis d'accord avant.
Mais on réagit à ce que l'autre propose. Alors soit on...
Un état d'éveil extraordinaire.
C'est vraiment ça. Je peux chercher... ça c'est
la
très
bien. On revient au bouddhisme là, donc c'est l'éveil.
Mais c'est ouais. Vraiment ça d'être en... D'être là, ou complètement ouvert, complètement. C'est une écoute. Très très l'éveil. C'est parfait, je ne peux pas le dire mieux. Ouais, c'est tout à fait juste.
Vous n'improvisez qu'avec Horatio?
Bon, alors moi j'ai joué dans des.
Vous pouvez improviser tout seul, mais est-ce que ça marche avec d'autres, autrement dit? Est-ce que vous avez essayé avec d'autres?
Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens avec qui vous allez peut-être plus loin ou différemment. C'est vrai, c'est aussi là. Là, c'est vrai, je répète, c'est un petit peu mystérieux, c'est une rencontre, vraiment, lui vient d'une académie de piano, mais d'une rigueur absolument folle.
Vous, c'est plutôt le jazz.
Moi, je viens d'une formation complètement un peu sauvage, hybride, donc c'est assez étonnant que la rencontre se fasse autour de... Il y a des moments presque, on est chez Debussy, Scriabine, je ne sais pas, c'est assez drôle. C'est assez...
On a, vous aviez d'autres exemples à nous faire entendre?
Oui, peut-être le...
Il s'agit de, là.
Alors là, c'était, donc, ça a été utilisé pour un ballet, en fait, pour le...
Toujours tous les deux.
Sur Egon Schiele.
Sur, sur un portrait d'Egon Schiele en, voilà, en, voilà, en ballet et donc voilà, en musique voilà, aussi voilà. Là, ce qui est troublant, c'est que vous le faites à deux, cette improvisation. Parce que, donc, c'est là qu'on entend très bien on perçoit l'entente entre les deux. Peut-être que tous les deux, vous aviez une image mentale, puisqu'il s'agit d'Egon Schiele, vous aviez des images d'Egon Schiele et que ça vous a mis dans un état terriblement mineur, comme ça. Ouais. Et du coup, la musique surgit.
Ouais. Bon, Schiele, donc c'était, donc on avait une, là, voilà une autre approche d'improvisation. Donc on avait donc les tableaux, on a parcouru ces tableaux et ça c'est vraiment le presque le mal-être. Hein, il fait tellement beau ici à Verbier, mais cette note répétitive et puis c'est si on regarde sa peinture, je pense même à Bacon, il y a quelque chose de déstructuré, quelque chose qui fait mal au corps. y a quelque chose qui est mal dans son corps. Enfin, moi, je suis pas un historien de l'art, mais
on peut,
il y a quelque chose
ça,
de l'ordre de la Madre Morte. Moi, je pense que c'est des toiles qui m'ont profondément touché. J'imagine même mal mettre une autre musique que ça. Et donc, c'est voilà une autre approche d'improvisation. Là, c'est pas cinq notes, c'est une impression à partir d'un tableau. Et là,
c'est
on est parti.
La voilà. correspondance des arts, voilà. comme on disait à l'époque du symbolisme, voilà. c'est-à-dire les parfums, les couleurs et les sens répondent. Là, on a des couleurs.
Il faudrait presque le tableau
qui
pour
vous suggère des, voilà, ça, qui vous suggère des harmonies à tous les deux. Et puis voilà. cette note répétitive que dont l'un des deux se charge.
Ben,
mais vous étiez d'accord. Tu fais une note, tu fais
toujours la même. Non, mais je pense,
ouais, c'est tout seul.
Voilà, c'est ça. Voilà, puis ce côté implacable chez Chilet, enfin, il y a quelque chose de profondément désespéré. Puis je crois que ça se ressent. Cette musique, on a presque l'impression qu'il y a pas de, il y a pas de sortie là. Alors, pour le coup.
Mais alors, maintenant que vous vous êtes adonné à la, et que vous continuez à vous adonner à l'improvisation.
On fait pas que des choses.
Ouais, justement.
Ça peut être aussi plus drôle.
Ça peut être plus drôle, on verra peut-être.
Ça peut être comme la vie. Enfin,
oui. Mais vous composez toujours de façon, normale, je l'ai dit. Ou est-ce que ça a changé votre attitude de compositeur, de travailler l'improvisation?
C'est un enrichissement, c'est un enregistrement, ouais, enrichissement, j'ai pas d'autre mot qui vient, c'est une manière, l'improvisation, d'aller visiter des zones, même des zones troubles qu'on a en nous. Je pense que l'improvisation permet d'aller chercher, parce que dans le fond, il y a un confort. La partition, je suis pas en train de dénigrer, on parle d'autre chose. C'est magnifique de jouer ce qui est écrit. Très bien. Par contre, on installe un confort. On peut tout à fait jouer complètement en dehors et puis effectivement faire des notes, comme disait Duchâble. J'en ai marre d'additionner des doubles croches, c'est-à-dire d'être comme ça. Par contre, l'improvisation, je crois, si à l'honnêteté, on peut aller chercher en soi des zones, voilà, des zones particulières.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque
même,
est-ce qu'il n'y a pas un risque, celui du cliché?
Oui, bien sûr.
De quelque chose qui donne à l'improvisateur du plaisir au moment où il le fait, bien sûr, mais qui est finalement, si on y réfléchit avec du recul, justement, puisque vous parliez du recul, une idée finalement plutôt banale.
Probablement que si l'improvisation ensuite n'est pas retravaillée pour ensuite en faire vraiment une œuvre structurée, probablement quelque chose qui est de l'ordre, disons, de tout ce qui est immédiat, probablement, et comme ça.
Du moment qu'on vit, du happening, était agréable à vivre sur le moment, et puis après,
sauf, il n'en reste pas grand-chose. Dans l'histoire de la musique, il y en a sûrement, mais probablement qu'il y a ce risque. Je pense qu'ensuite, si on veut que l'œuvre prenne du poids, probablement qu'il faut la travailler après. Oui.
Alors,
c'est intéressant, ce premier. Je répète, parce qu'elle permet d'aller dans des zones qui sont d'inconfort, finalement. C'est une remise en perspective de tout. C'est une remise à plat de tout ce que je pensais savoir sur la corde do majeur. Mais il sait peut-être pas ça.
Parce que vous le faites à deux? Est-ce que vous improvisez tout seul dans votre chambre, par exemple?
Oui, ça peut. À deux, c'est parce c'est le souci de la neurobiologie pour voir ces états de synchronie. C'est plutôt une demande comme ça en miroir.
Alors justement, revenons-en à ces expériences auxquelles vous participez, puisque l'improvisation est un outil dont se sont emparés un neurobiologiste et un psychanalyste. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils ont découvert avec vous? Est-ce qu'ils ont découvert des choses? Vous me dites, il y a eu par exemple aux forces motrices à Genève des séances publiques avec écran, vous deux entrant. Vous me l'avez décrit tout à l'heure avant que nous commencions à parler. On entre en scène comme des pieuvres. Vous voyez,
ouais,
des fils partout.
Poulpe, oui, avec un scientifique qui nous suit comme ça. C'est vrai qu'il y a un côté
comme dans Pirates des Caraïbes.
Voilà. Maintenant, mais je répète, on est au début. On est capable aujourd'hui, par exemple, de bouger un curseur d'ordinateur par la pensée. On est capable, pour un tétraplégique, par exemple, de faire bouger la chaise à droite à gauche par la pensée. Je m'avance, pas être trop sûr en expliquant. Mais on est capable. Oui, on a simplement besoin, ils ont simplement d'un objet de transition. Je crois qu'il faut que la personne pense pomme, et pomme veut dire droite, par exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on avance, c'est que les gens, on est en train d'avancer dans la recherche de cerveau qui est quand même très largement mystérieux et inconnu pour l'instant. Et c'est, moi, ça m'intéresse, c'est d'aller là-dedans. Je ne crois pas qu'ils ont, j'en suis même sûr, une démarche de comme ça, d'être triomphant. Et ils questionnent. C'est ce qui m'a frappé en travaillant avec ces deux professeurs, c'est le questionnement.
Ils recherchent, c'est des chercheurs, les chercheurs cherchent.
Ils ont créé d'ailleurs la fondation Agalma à Genève.
Donc vous êtes le responsable pour le
avec Christian de Saussure. Professeur Ansermet Magistretti, Olaf Blanquet de l'EPFL, qui ont travaillé en collaboration. Voilà, cette fondation Agalma est là pour... Agalma, c'est Lacan, le psychanalyste, qui, hein, c'est un amalgame, c'est-à-dire qu'on met... Il y a une question, mais vue par différents domaines. La neurobiologie, ça peut être la philosophie, ça peut être l'histoire de l'art, la musique, et on est là autour d'une table pour questionner, regarder. C'est ça le but d'Agalma. Et moi, je suis responsable là-dedans des projets musicaux. Celui-ci en fait partie, le Music and Brain in Unconscious Waves. Voilà, le titre un peu barbare en anglais.
C'est en anglais, mais avec un jeu de mots sur wave.
Wave, c'est-à-dire les sinusoïdes montrés quand on... donc ces perceptions de l'activité neuronale sont vues avec des sinusoïdes. Donc c'est ça, les waves.
Et les fichiers sont sur un ordinateur et on l'étiquette wave aussi.
On est au début de tout ça et c'est des choses qui me passionnent. Même si je répète, je pense qu'ils sont devant un mystère, mais colossal. C'est-à-dire qu'on n'expliquera jamais probablement le cri de Munch, le Guernica ou je sais plus quelle autre œuvre absolument magistrale ou une symphonie de Mozart. Je pense que, mais peu importe. Je pense qu'à travers ce chemin, c'est ils trouveront d'autres...
Mais d'autres j'imagine choses. Que vous n'avez pas été que souris musicale dans cette expérience, oui. Souris de laboratoire musical. On voit bien ce que les neurosciences, les courbes, etc. peuvent débusquer, si elles débusquent quelque chose dans ces expériences. On vous a, j'imagine, commenté les courbes obtenues par sous l'effet de vos improvisations.
Pour l'instant, je vais être très honnête.
Ils observent quelque chose.
Mais maintenant, il faut qu'ils donnent un sens à tout ça. Donc,
Quelque chose.
Voilà, ils ont constaté. Nous avons maintenant le professeur Liobera. Je cite beaucoup de gens. Je suis désolé, mais c'est une
entreprise collective.
Qui aujourd'hui est jour et nuit, et non peut-être pas la nuit, mais sur ce projet-là et sur la lecture de ces signaux. Et donc,
Alors quand il y a improvisation et, comment vous disiez, synchronie est-ce qu'on constate, par exemple... l'idéal, c'est qu'il y ait synchronie. Voilà, qu'on constate que les courbes de vos deux cerveaux respectifs décident les mêmes...
Pour l'instant, il n'y a pas encore de choses vraiment flagrantes. On aimerait imaginer volontiers deux courbes parfaitement, parce que moi, je suis dans le même esprit que le ça serait intéressant, d'ailleurs, de jouer un même fragment mélodique et de voir si on obtient la même chose. Ce serait intéressant d'ailleurs de mettre aussi ces capteurs sur le public. Ça serait intéressant aussi de savoir comment chaque personne reçoit la même musique. Dans le fond, c'est étonnant de si vous jouez une sonate de Mozart et vous mettez
des électrodes,
vous allez avoir, parce que dans le fond le spectateur devient aussi lui compositeur, il va entendre, il va y mettre aussi dedans quelque chose. Ah, j'ai trouvé ce pianiste trop, ah non, au contraire, il est extraordinaire, ou cette voix tellement sublime, oh non, je l'ai trouvé criarde, etc.
Mais on pourrait imaginer que si un auditeur entend de façon particulièrement intense et profonde telle ou telle musique, il entre en communication, en synchronie justement avec l'émetteur, avec le pianiste.
Mais avec le pianiste, et ça, beaucoup de pianistes ou de musiciens vous le disent, ils sentent le...
Oui, il y avait quelque chose de mystérieux dans la salle. Oui, alors est-ce que ça se dessine, est-ce que c'est palpable?
Voilà, ça serait...
Alors, est-ce que ces expériences commencent à apporter des réponses
genre de questionnement? Non, il y a une manifestation, il y a des signaux maintenant, il faut qu'ils soient traités, puis il faut qu'on affine, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place un protocole pour, je répète, essayer vraiment de distinguer ce qui est parasite, hein, je disais, le bruit du cœur, etc. Ou même les états somatiques, c'est-à-dire les vous avez déjà vu ces visages de musiciens qui tout à coup sont comme ça quand ils jouent tel ou tel son, toutes ces choses-là certainement interviennent aussi.
Est-ce que ça correspond à quelque chose, justement? Est-ce qu'il y a une corrélation entre telle expression du visage et tel exercice mental?
Mais écoutez, vous devriez vraiment venir poser toutes ces questions, parce que c'est vraiment passionnant, c'est vraiment juste tout ça, c'est vraiment ça. Le son vient d'où? voyez, parce que les gens, par exemple, en piano, travaillent leur technique. On dit, vous travaillez une technique, ben, c'est bien. Mais le son, je dois l'avoir avant. C'est-à-dire que quand je joue cette note, elle est là déjà, elle existe. Puis moi, je fais, ça c'est une extension de mon, le bras est un, c'est une extension. Et ça, c'est un instrument, il porte bien son nom.
Roby Lakatos, le musicien tzigane qui était là hier à la même place, disait la même chose. Je lui demandais comment il a réussi à trouver sa technique, à fabriquer ses sons. Oui, c'est dans la tête que ça se passe. À partir de là, il n'y a plus que le bras droit, dit-il. Lui qui est violoniste, il n'y a que le bras droit qui compte. S'il le dit, on veut bien lui faire confiance. Mais c'est dans la tête que ça se passe.
Mais ce qu'on appelle le toucher. On va travailler des heures pour obtenir le toucher. Mais non, mais le toucher, la note, là, parce que si je vais donner ça, une note qui perle comme ça, elle est entendue avant. Après, si je n'obtiens pas ce que j'ai. Alors, c'est un peu raté. Je dois pas être surpris parce que je joue. Je dois pas être surpris.
Oui, ça doit être volontaire, un exercice volontaire.
Zut. Ah, bah non, alors ça veut dire que ce n'était pas clair. Normalement. Il faudrait faire un travail d'écoute intérieure plutôt que d'essayer de travailler des heures. Non, il ne faudrait pas dire ça. Non, mais il faut aussi ensuite un bac, bien sûr.
Alors, justement, à propos d'écoute intérieure, là, je vous posais des questions autour des neurosciences. Le professeur Ansermet, François Ansermet, lui est psychanalyste.
Voilà, exactement.
Et psychiatre.
Oui.
Est-ce que, je ne sais pas, vous avez eu des échanges particuliers? Je ne vois pas quel est son rôle dans l'entreprise, là.
Alors, si vous voulez, nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est une sorte de métaphore des travaux de ces deux professeurs. On illustre par l'improvisation ce qu'ils disent. Ils disent, dans le fond, chaque expérience dans votre vie, la mienne, laisse une trace dans le tissu neuronal. Vous avez une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle ce matin, cet après-midi, demain, et il y a une trace qui s'inscrit. Et là, la neurobiologie dit, cette trace, oui, elle existe, mais elle peut, à chaque instant, devenir autre. Vous pouvez, je peux, moi, à chaque instant, devenir autre. Non, nous ne sommes pas déterminés. Le cerveau est plastique, il peut, à chaque moment, dans le fond, s'imaginer autrement. Voilà ce qu'ils, ce qu'ils disent. Et nous, on est là, alors dans les formes de dépression, etc., la psychanalyse, on est là pour, à travers l'improvisation, là, dans le fond, la composition, apprendre à devenir compositeur de sa propre vie, essayer d'imaginer autrement les choses, avec d'autres représentations. C'est dans le fond ça qu'on essaye de montrer à travers la musique et l'improvisation. C'est une métaphore, je ne peux pas le dire autrement, de ces travaux de ces deux professeurs.
J'ai trouvé sur le dossier de Galma, donc cette fondation dont vous êtes le responsable pour ce qu'il s'agit pour la musique, Richard Rentsch, des questions à étudier au confluent de la psychanalyse et des neurosciences. Il y en a trois ou quatre, je vous les cite. La discontinuité, l'émergence de la singularité, ce qui fait que chacun est unique en principe, espère être unique en tout cas.
Voilà ce qui est aussi dit par, effectivement, ça c'est bien de le savoir.
La production de la différence et de l'unicité, la critique des formes du déterminisme, donc la liberté en gros, le devenir et l'invention de soi au-delà de tout programme de développement.
C'est ça.
Voilà, il s'agit de confronter ces questionnements à d'autres disciplines et à des expériences d'artistes. En l'occurrence, des musiciens. D'abord, des musiciens. Pourquoi la musique? Parce que c'est peut-être le plus abstrait de tous les arts.
Parce que c'était là, dans le fond, ça existait. On faisait ces improvisations. On est parti de là, puisque ça existait. On est parti de là. Mais il y a, maintenant, il y a eu tout un travail aussi sur les représentations, par exemple, de la procréation médicalement assistée, par exemple, où on a fait venir des historiens de l'art. Parce que c'est vrai que c'est assez particulier, quand même, de voir une femme qui voit sur un écran à distance un être créé qui est en dehors de son ventre. Enfin, c'est, il y a quelque chose d'assez...
Et quel est le rôle des historiens d'art, là?
Donc, eux, ils viennent montrer toutes les représentations dans les œuvres d'art, de ces représentations de la procréation. Voilà, typiquement, voilà une question, voilà une, tout à fait, une, disons, même pas une question, un regard, ou, sur, voilà, typiquement une question à Galma, voilà. Nous, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut devenir, je me répète un peu, mais compositeur, inventeur de sa propre, de sa propre vie.
Je retiens le mot métaphore que vous avez dit tout à l'heure.
Et dans le fond, c'est pas la psychanalyse qui va aller dans le passé, ressasser. C'est de se dire, mais aujourd'hui, maintenant, là, maintenant, demain, comment je peux, avec ce que j'ai reçu, ce que je suis, les 5 notes que j'ai reçues, comment, ok, je peux. Ah non, c'est impossible. Ah bon, pourquoi ? Essaye, ça, et de partir dans un, je répète, de développer des représentations. Le sujet, donc, qui est dans une dépression, souffre de l'absence de représentation. Et s'enferme, dans le fond, dans l'impasse, l'impossibilité. Alors, ça, après, c'est la folie, c'est la mort, c'est le suicide, c'est, si vous voulez, des choses vraiment extrêmes et terribles. Donc, nous, on est. Voilà, notre.
Votre situation.
Travail,
votre situation. Ouais. C'est plus une situation qu'un travail, finalement, voilà, en l'occurrence. Oh, une troisième plage.
Un dernier qui est peut-être plus mélodique. Peut-être,
avec laquelle on va se quitter, Richard Reich.
Voilà, exactement.
Qu'est-ce qu'il y a dans la musique qu'on va entendre là maintenant ? Encore un moment ?
Alors, il y a quelque chose de peut-être un peu plus mélodique. Là, ça fait partie aussi de ce ballet.
Toujours autour des Gonchi. Vous avez
Il a eu des phases où il a. Peut-être plus lumineuse, un peu plus.
Oui, c'est
amoureux. Lumineux, enfin, lumière.
Et puis, d'autre part, vous avez composé, je crois, une musique de ballet autour de Mozart.
Voilà, autour de ce Requiem, oui, exactement, oui, tout à fait. Bon, là, c'est une autre histoire, là, on sort un peu de tout ça, mais c'était pour l'année Mozart, et c'était une expérience assez...
Non, mais vous avez cité
très sur le manuscrit, dans le fond.
Vous avez cité Mozart à plusieurs reprises comme étant justement la grande interrogation, une des grandes interrogations de l'histoire de la musique et de l'histoire du fonctionnement de l'esprit humain.
Oui,
parce qu'on a calculé que matériellement, il avait à peine eu le temps d'écrire ses musiques. Ouais. Donc ça veut dire qu'il composait, une partie de son cerveau composait alors que l'autre dirigeait la main qui écrivait. Tout ça est absolument incompréhensible.
Oui, il composait la fugue. Alors il écrivait la fugue et composait le prélude ou l'inverse. Des récits absolument. Oui, ça c'est. Mais bon, chez Mozart, c'est pas tellement la vitesse, parce que beaucoup de gens peuvent écrire très vite. C'est aussi c'est ce qu'il a mis sur le papier qui est absolument un peu.
Oui, parce que ça aurait pu être de la mauvaise musique en fait. Voilà. Vaste ça, problème. C'est... Merci Richard Chan. On vous écoute.
Merci. Merci à vous.
C'est avec cette musique improvisée par Orazio Scortino et Richard Renz que se termine cette rencontre de Verbier, précisément avec Richard Renz, autour de la psychanalyse et des neurosciences. Je vous rappelle les deux scientifiques avec lesquels il travaille, François Ansermet et Pierre Magistretti. Merci à Clément Atlan et Frédéric Bernard pour leur collaboration technique. Vous êtes sur Espace 2, il est 19h.